Bonjour à toutes et à tous. Vous pourrez tout à l'heure, à la fin du culte, encourager Alain qui préside pour la première fois aujourd'hui. Soyez encore les bienvenus parmi nous. Depuis que nous avons connu le confinement, nous savons que nous ne prenons pas pour acquis le fait de se rassembler physiquement. Nous ne savons pas combien de temps encore nous pourrons nous réunir, et c'est une grâce du Seigneur. Et nous allons en profiter aussi longtemps que c'est possible. La pluie aussi est une bénédiction que Dieu accorde et que nos champs, ici ou là en France, nos champs en ont tellement besoin de cette pluie, surtout après l'épisode caniculaire que nous avons vécu. La pluie, le texte d'aujourd'hui en parle aussi. Et les Israélites, à cette époque, dépendaient de la pluie pour avoir de bonnes récoltes. Mais une fois de plus, quelque chose n'allait pas dans leur relation avec Dieu. Et c'était en rapport avec la dîme. Alors, permettez-moi d'abord de vous poser une question. Et je ne vous demanderai pas forcément d'y répondre, mais simplement que vous puissiez y réfléchir. Si un jour, vous receviez une rémunération de 15 000 euros par mois, si vous recevez cette rémunération de 15 000 euros par mois, donneriez-vous 1 500 euros en offrande à l'Église ? Alors, restons encore un peu dans le rêve. Est-ce que vous pourriez envisager avec cette somme-là de donner 10 000 euros en offrande sur les 15 000 ? Parce que vous estimez qu'avec 5 000 euros, vous avez largement de quoi vivre. Je vous laisse juste réfléchir à cette situation qui peut-être ne se produira jamais, mais simplement pour savoir examiner ce que vous avez dans votre cœur. Et apparemment, donner 10% de leur récolte ou de leur bétail était un problème pour les Israélites du 5e siècle avant Jésus-Christ. Le peuple a cessé, ou quasiment, de verser les dîmes demandées par la loi de Moïse. La dîme et le prélèvement de 10% sur les produits du sol, sur le bétail. Et tout cela faisait partie des devoirs du peuple envers Dieu. L'Israélite qui avait reçu de Dieu tant de choses donne une part de ses biens qui est exclusivement consacrée à Dieu. D'ailleurs, d'après Deutéronome chapitre 14, verset 23, le peuple apprenait de cette manière à craindre Dieu, c'est-à-dire à l'honorer comme il le mérite. Et en outre, dans sa bonté, Dieu avait décidé de donner les dîmes aux Lévites, c'est-à-dire aux serviteurs du sanctuaire. Cette part consacrée à Dieu servait donc à subvenir à leurs besoins. Et il y aurait encore d'autres choses à dire sur la dîme, mais je ne vais pas m'étendre sur toutes les autres lois. Donc, les Israélites de l'époque de Malachie devaient donner leurs dîmes, leurs offrandes, pour que le culte de l'Éternel puisse continuer. Autrement, de quoi allaient vivre les Lévites ? En réalité, la négligence dans les dîmes et dans les offrandes révèle un problème plus profond. En fait, leur cœur n'y est plus. Le peuple d'Israël s'est éloigné de Dieu, de son Dieu. Et avec les oracles que nous avons vus précédemment, nous avons l'impression que le peuple cumule les infidélités. Quand nous lisons Malachie, nous voyons la misère spirituelle du peuple d'Israël à son époque. Rappelons que le livre de Malachie se compose de 6 oracles, 6 messages adressés au peuple de Dieu. Déjà la semaine dernière, nous avons vu le 4e oracle qui évoquait le jugement certain de Dieu qui allait venir lui-même en personne pour tantôt purifier son peuple et en faire un peuple qui lui soit agréable et tantôt pour juger les coupables qui pratiquaient toutes sortes d'injustices. Et cet après-midi, je vous invite à parcourir avec moi ce 5e oracle. Et d'abord, j'aimerais évoquer cinq vérités tirées du cinquième oracle. C'est facile à retenir, cinquième oracle, cinq vérités. La première vérité est la suivante. Dieu ne change pas. Il est fidèle à son alliance. Dieu ne change pas. Il est fidèle à son alliance. Et c'est ce que nous lisons dès le verset 6. « Je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, descendants de Jacob, vous n'avez pas été détruits. » Parfois, lorsque nous n'avons pas vu quelqu'un depuis longtemps, nous pouvons soit nous dire qu'il n'a pas changé d'une goutte depuis la dernière fois, depuis tout ce temps, ou au contraire, qu'il a beaucoup changé. Eh bien, en fait, avec le temps, Dieu, lui, ne change pas. Vous pouvez être certain, aujourd'hui, 2500 ans après ce texte que vous avez sous les yeux, que cette parole est toujours d'actualité. Dieu ne change pas. Dieu reste le même. Il a été et sera toujours le même. Dieu ne peut pas être plus parfait qu'il n'est, pour le dire autrement. Dieu ne peut pas être plus fidèle qu'il ne l'est. Dieu ne peut pas aimer plus qu'il ne le fait déjà. Dieu ne change pas. Et dans notre texte, cette vérité est mise en relation avec sa fidélité envers son peuple, avec qui il a conclu une alliance. Je ne change pas, et vous n'avez pas été détruits, alors que j'aurais pu le faire. Je paraphrase un peu ce que dit le Seigneur. Je ne change pas, vous n'avez pas été détruits, mais j'aurais pu le faire. Malgré la transgression répétée au cours de l'histoire, malgré la transgression répétée des lois divines, le peuple d'Israël n'a pas été détruit, comme il le méritait. Pourquoi ? Parce que Dieu a promis, notamment à l'ancêtre de ce peuple, à Abraham, qu'il maintiendrait pour toujours son alliance avec lui et avec sa descendance. Nous lisons cela dans Genèse 17. Verset 7. Dieu a promis à Abraham qu'il maintiendra pour toujours son alliance avec lui et sa descendance. Et c'est pour cela que, à cette époque, à l'époque de Malachie, le peuple subsiste encore. Dieu a tenu parole. Les descendants de Jacob sont toujours là. Deuxième vérité concernant notre oracle, le Dieu qui ne change pas appelle son peuple à changer. Appelle son peuple à revenir à lui. C'est ce que nous voyons au verset 7. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Revenez à moi. Et cette fois-ci, comme tant d'autres fois, Dieu appelle son peuple à revenir à lui. Parce que son peuple s'est éloigné de lui et donc il lui demande de revenir à lui. Dieu aime son peuple. Il l'a affirmé au début du livre de Malachie. Dieu aime son peuple et veut cette relation particulière avec Israël. Mais qu'en est-il d'Israël ? Et qu'en est-il de nous ? Ai-je besoin, en ce moment, de revenir à Dieu ? Troisième vérité, le Dieu qui ne change pas s'engage à revenir vers son peuple. Le Dieu qui ne change pas s'engage à revenir vers son peuple. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Si Israël abandonne ses péchés et revient à Dieu de tout son cœur, eh bien l'Éternel promet de revenir aussi vers son peuple. Et c'est une manière de dire qu'il est toujours prêt à pardonner, que la porte reste ouverte pour la réconciliation. Et d'ailleurs, cela me rappelle une histoire. Plus de 400 ans après cette prophétie, dans une de ses paraboles, Jésus raconte l'histoire de ce fils prodigue qui a dilapidé tout l'héritage qu'il avait réclamé auprès de son père. Il avait tout dilapidé. Et en voyant sa misère, il a regretté son choix. Et il est revenu vers son père. Et qu'a fait le père ? A-t-il maudit son fils rebelle qui a quitté la maison avec son héritage? Non. Non, le père a vu son fils de loin, a couru vers lui, l'a embrassé et l'a accueilli. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Dieu ne change pas. Si son peuple revient à lui, il est prêt à l'accueillir de nouveau. Quatrième vérité concernant les dîmes et les offrandes, la négligence des dîmes et des offrandes est considérée par Dieu comme du vol ou comme une tromperie. La négligence des dîmes et des offrandes est considérée par Dieu comme du vol ou comme une tromperie. Je relis encore avec vous à partir de la fin du verset 7. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir ? Un homme peut-il tromper Dieu ? En effet, vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé ? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Est-ce que vous avez remarqué la répétition du verbe « tromper » ? Un homme peut-il tromper Dieu ? Vous me trompez ? En quoi t'avons-nous trompé ? Et vous me trompez ? Il y a une hésitation sur le sens de ce verbe, d'ailleurs, en hébreu. Certains le traduisent par « tromper », d'autres par « voler ». Si nous choisissons le sens de « tromper », il y a alors peut-être un jeu de mots avec le nom de Jacob qui est mentionné au verset 6. Parce que le nom de Jacob signifie « trompeur ». Et donc ses descendants sont des spécialistes de la tromperie. Si nous choisissons le sens de « voler », cela se comprend aussi, puisqu'en négligeant de donner les dîmes et les offrandes, le peuple garde pour lui ce qui devrait revenir à Dieu. Et une fois de plus, les Israélites, et Malachi précise la nation tout entière, les Israélites ont cessé d'obéir à ce que Dieu demandait. Et la conséquence est résumée ici. Vous êtes frappés par la malédiction. Verset 9. Le terme est fort. Vous êtes frappés par la malédiction. Et ce terme, il faut le comprendre dans le cadre de l'alliance que Dieu a conclue avec son peuple. Si nous lisons dans la Bible, par exemple, le livre de Deutéronome, eh bien, nous constaterons que cela ressemble à un traité d'alliance. Un traité d'alliance comme il s'en faisait dans le Proche-Orient, entre un roi ou un peuple suzerain et un roi et un peuple vassal. Et dans le Deutéronome, Dieu est le suzerain et Israël est le vassal qui lui doit allégeance et obéissance. Et dans ce traité d'alliance, Dieu a prévu des bénédictions en cas de loyauté et des malédictions en cas d'infidélité. Et en négligeant les dîmes et les offrandes, le peuple reçoit d'une manière juste la sentence divine. Puisque c'est écrit dans le traité d'alliance, le peuple est placé sous le coup de la malédiction. Et d'ailleurs, le verset 11 fait allusion à ces malédictions. Des récoltes dévorées, sans doute par des insectes, et la sécheresse. Et puis, cinquième vérité concernant ce cinquième oracle, Dieu sera toujours plus généreux que son peuple. Dieu sera toujours plus généreux que son peuple. Nous voyons bien que nous ne sommes pas dans un rapport de donnant-donnant. Ce que Dieu donne est toujours supérieur aux dons des hommes, de telle sorte qu'il est clair que nous ne méritons pas ces bénédictions. Ce que Dieu donne est toujours supérieur à ce que nous, en tant qu'hommes, nous pouvons lui donner. Et je saute volontairement le début du verset 10 pour y revenir tout à l'heure. Je vous propose de lire la suite. « Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai l'insecte vorace, afin qu'il ne détruise pas les produits du sol et que la vigne ne soit pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Toutes les nations vous déclareront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Il n'y a pas de comparaison possible entre ce que le peuple peut donner et ce que Dieu s'engage à donner. C'est littéralement une pluie de bénédictions que nous avons dans ces versets. Si le peuple d'Israël se remet à donner les dîmes comme Dieu l'a ordonné dans sa loi, Dieu s'est engagé déjà dans le passé, dans le traité d'alliance dont nous avons parlé, Dieu s'est déjà engagé à bénir son peuple par la pluie, par des récoltes abondantes, par une place particulière au milieu des nations. Dieu s'est déjà engagé autrefois à ce sujet. Ces bénédictions sont prévues. Et je citerai simplement un exemple que nous voyons dans le Deutéronome, chapitre 28. Je vous cite simplement ces versets. Deutéronome, chapitre 28, versets 11 à 12. L'Éternel, donc en cas d'obéissance, l'Éternel te comblera de bien en multipliant tes enfants, les portées de tes troupeaux et le produit de ton sol dans le territoire qu'il a juré à tes ancêtres de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer au moment voulu la pluie sur ton pays et pour bénir tout le travail de tes mains. Nous retrouvons ici un langage qui est similaire chez Malachie, n'est-ce pas ? Dieu s'est engagé à ouvrir son bon trésor qu'est le ciel pour déverser la pluie. Dieu a prévu l'abondance pour son peuple, non pas comme un dû, mais parce que Dieu s'est engagé à bénir son peuple de cette manière s'il est fidèle à son alliance. C'est Dieu qui fixe les conditions. Et cela nous apprend quelque chose de Dieu, qu'il est avant tout un Dieu qui veut bénir. Je récapitule les 5 vérités concernant cet oracle. Premièrement, Dieu ne change pas, il est fidèle à son alliance. Ensuite, le Dieu qui ne change pas appelle son peuple à changer et à revenir à lui. Troisièmement, le Dieu qui ne change pas s'engage à revenir vers son peuple. Quatrièmement, la négligence des dîmes et des offrandes est considérée par Dieu comme du vol ou comme une tromperie. Et enfin, Dieu sera toujours plus généreux que son peuple. Alors, allons un peu plus loin à présent, en nous concentrant sur les 2 impératifs principaux de notre texte. Revenez et apportez. Donc, après les 5 vérités, 2 impératifs. Revenez et apportez. Dieu appelle son peuple à revenir et lui ordonne d'apporter les dîmes. Et remarquez bien l'ordre des verbes. Revenir d'abord à Dieu et apporter ensuite les dîmes, les offrandes. Et le peuple comprend très bien ce que Dieu est en train de demander, mais il ne se sent pas concerné. Voyez bien au verset 7, « En quoi devons-nous revenir ? Tu nous dis de revenir, mais qu'est-ce qu'on a fait de mal ? En quoi est-ce qu'on s'est éloigné de toi ? Est-ce qu'on n'apporte pas des sacrifices au temple ? Mais vous vous souvenez peut-être, et pour ceux qui n'étaient pas là, eh bien, je le rappelle, eh bien, les sacrifices qu'apportaient les Israélites, qu'est-ce que c'était ? Des animaux dérobés, des animaux boiteux, des animaux malades. Autant de sacrifices que Dieu ne peut pas accepter. C'est comme si on vous offrait un cadeau avec un emballage déjà à moitié ouvert et déchiré. Alors quel mal Israël a-t-il fait ? Dieu répond avec clarté au verset 8. Vous avez oublié les dîmes et les offrandes. Et c'est une faute grave. Parce que cela signifie qu'ils ne prennent pas au sérieux le culte rendu à Dieu. Et en plus, les serviteurs du temple dépendent de ces dîmes pour vivre. Et si les Lévites n'ont pas de quoi se nourrir, eh bien, qu'est-ce qui peut se passer? Ils risquent de quitter le temple pour subvenir eux-mêmes à leurs besoins. Ils ont besoin de manger. Et nous retrouvons d'ailleurs cette situation dans le livre de Néhémie. Néhémie qui était sans doute un contemporain de Malachie. Et je vous lis simplement ce que nous lisons dans Néhémie chapitre 13, des versets 10 à 12. C'est d'ailleurs Néhémie qui parle. J'ai aussi appris que les Lévites n'avaient pas reçu leur part et qu'ils s'étaient repliés sur leurs terres, en particulier les musiciens chargés du service. J'ai adressé des reproches aux magistrats en leur demandant « Pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée ?» Puis j'ai rassemblé les Lévites et je les ai réinstallés à leur poste. Alors, tout Juda a amené la dîme du blé, du vin nouveau et de l'huile dans les entrepôts. Voyez les conséquences d'une telle négligence. Or, ce n'était pas ce que Dieu avait prévu pour eux. Dieu avait prévu que son peuple, par des dons réguliers, puisse pourvoir aux besoins des Lévites. Et c'est alors que vous comprenez l'impératif que nous avons au verset 10. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. « Mettez-moi ainsi à l'épreuve, » dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Comment le peuple peut-il revenir concrètement à Dieu? Eh bien, la réponse est ici, en apportant toutes les dîmes, 10% de leurs produits, de leur bétail, qui seront entreposés dans ce qu'on appelait à l'époque la maison du trésor, au temple. Et de cette manière, les Lévites n'ont plus à chercher quelque chose, n'ont plus à chercher à subvenir à leurs besoins tout seuls. Pour le dire encore autrement, pour l'Israélite, donner de ses biens dit quelque chose de son attachement à Dieu. Donner de ses biens dit quelque chose de sa fidélité à Dieu. Et inversement, ne rien donner, ou donner moins que la dîme, c'est ne pas prendre au sérieux ce que Dieu a ordonné à Israël. C'est abandonner le culte rendu à l'Éternel. L'Éternel attend de son peuple une obéissance entière. Et quand Dieu dit d'apporter toutes les dîmes, cela signifie implicitement de donner régulièrement. Après tout, il n'y a pas une saison où les Lévites n'aurait pas besoin de manger. Un mot seulement sur ce que Dieu veut dire lorsqu'il incite le peuple à le mettre à l'épreuve. Mettez-moi à l'épreuve. De manière générale, lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que Dieu avertit son peuple de ne pas lui forcer la main. Mais ici, c'est Dieu lui-même qui le suggère. Sans doute pour bien indiquer qu'il est décidé à bénir son peuple. Mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je tiens parole, effectivement. Dieu est décidé à bénir son peuple. Et en ce qui nous concerne, nous avons toujours ce moment dans le culte, et nous l'avons vécu tout à l'heure, ce moment pour parler de l'offrande, de ce que cela signifie. Nous pouvons rappeler à cette occasion, que donner de nos biens exprime notre fidélité à Dieu. Donner de nos biens exprime notre attachement, notre amour à celui que nous adorons. Il nous demande de le faire. Et nous verrons tout à l'heure ce que cela implique concrètement pour nous. Si je devais vous décrire un chrétien infidèle à Dieu, je dirais que c'est un chrétien qui fait preuve de négligence dans son offrande. Soit il va oublier, soit il va donner irrégulièrement, soit il va donner peu par rapport à ce qu'il est capable de donner. Voilà le portrait d'un chrétien infidèle. Alors, comprenez-moi bien, mon propos n'est pas de condamner celui ou celle qui donne peu. Il faut d'abord bien saisir les raisons pour lesquelles nous voulons donner ou non. Il est intéressant de voir qu'une manière de vivre son retour à Dieu, c'est à travers le don matériel. Bien sûr, nous pouvons donner de notre temps, nous pouvons rendre service, et tout cela est important et précieux. Mais donner une part de nos biens, et en l'occurrence de notre argent, a une place particulière dans les commandements de Dieu. Le don matériel révèle ce qu'il y a vraiment dans notre cœur. Alors, soyons à présent plus concrets. Donc, après les 5 vérités concernant le 5e oracle, après les 2 impératifs, revenez et apportez, eh bien, passons à une application multiple. Une application multiple. Je relis le verset 10 encore une fois. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et j'aimerais tirer une application de ce verset pour nous aujourd'hui. Une application multiple parce qu'il y a une multitude de manières d'honorer Dieu avec notre argent. Alors, vous vous en doutez peut-être, Malachie 3:10, c'est un des versets fréquemment utilisés par les théologiens de la prospérité. Ces derniers vont dire « Apportez vos dîmes et Dieu vous bénira. Il vous rendra prospère, comme il le dit ici. » Est-ce que c'est tout ce qui doit nous intéresser en tant que chrétiens? Être dans l'abondance matérielle, est-ce là notre motivation principale pour la dîme? Et je dois clairement le dire, loin de nous une telle pensée. Une telle pensée de donner pour gagner la bénédiction de Dieu. Parce que c'est tout simplement oublier tout ce que Jésus a fait pour sauver son peuple. Et que nous avons tout reçu par grâce. Alors ceci étant dit, vous vous posez sans doute la question, dois-je donner la dîme ? Qui était une prescription de l'ancienne alliance. Dois-je donner la dîme? Beaucoup de spécialistes affirment que dans le Nouveau Testament, il n'y a aucune exhortation explicite concernant la dîme. Aucune exhortation ou commandement explicite qui serait adressé aux croyants de la Nouvelle Alliance. C'est vrai que nous avons vu dans le livre des Actes que les premiers chrétiens donnaient une partie de leurs biens, voire bien plus. Et ils répartissaient l'argent en fonction des besoins des uns et des autres. Et à cette époque, puisque le système lévitique était en train de disparaître, il n'y avait plus lieu de donner pour le service du temple. Il n'y a plus rien à voir avec la situation qui nous est décrite ici. D'ailleurs, pour enfoncer le clou, après la destruction du temple en 70 après Jésus-Christ, il est certain qu'il était impossible, même pour les Juifs, de payer la dîme pour le service du temple, puisqu'il n'y avait plus de temple. Donc, cette prescription de la loi de Moïse était temporaire, jusqu'à la venue de celui qui devait accomplir la loi, Jésus. Or, lorsque Jésus est venu, il a fait plus que donner les 10% de la dîme. Il s'est offert en sacrifice à 100%. Il a donné sa vie en mourant sur la croix. Et il l'a fait pour gagner la faveur de Dieu, non pas pour lui, il l'avait déjà, mais pour nous. Et en cela, Jésus reste le modèle à suivre. Et les chrétiens le comprennent. Ils consacrent leur vie entière à Dieu et le don matériel matérialise concrètement cet engagement. Mais aucune dîme ne nous fait gagner la faveur de Dieu. Aucune dîme ne nous permet d'acheter avec notre argent la bénédiction de Dieu. Seul Christ nous a fait gagner la faveur de Dieu. Seul son don parfait, son don de 100%, nous permet d'appartenir à Dieu à 100%. Et nous permet d'être assurés à 100% d'être sauvés. Seul son don à 100% nous permet d'appartenir à Dieu à 100%. Et forcément, la question récurrente du montant revient. Cette question, c'est combien dois-je donner alors ? Est-ce que je peux donner, puisque la dîme est une prescription de l'ancienne alliance, est-ce que aujourd'hui je peux donner moins que la dîme ? Relisons encore une fois le verset 10, le début en tout cas. Apportez toutes les dîmes. C'était la prescription de base, sans compter les autres offrandes volontaires, sans compter les sacrifices, etc. Et sans indication explicite des apôtres, il me semble que le discours général que nous trouvons dans le Nouveau Testament est d'être généreux. Cela n'indique pas une somme, cela ne nous dit pas combien on doit donner, mais cela indique un état d'esprit. Une motivation du cœur qui se fonde sur le don généreux de Jésus-Christ. Lui qui a tout donné nous apprend à donner toujours plus. Et voici ce que l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens pour les encourager à la collecte en faveur des chrétiens pauvres de Jérusalem. Car vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Et bien sûr, nous ne parlons pas ici d'argent. Mais cela nous fait considérer combien le prix payé par notre Seigneur Jésus a été grand. En résumé, donner ce qui représente 10% de nos revenus revient à appliquer ce que le peuple de Dieu, dans l'ancienne alliance, pratiquait déjà, en tout cas quand il le faisait. Donc donner ce qui représente 10% de nos revenus revient à appliquer ce que le peuple de l'ancienne alliance pratiquait déjà. Donner généreusement et donc au-delà des 10% revient à appliquer ce que le peuple de Dieu, dans la nouvelle alliance, est appelé à faire. Surtout s'il en a la possibilité. Robert Murray McChain, un pasteur écossais du 19e siècle, a dit la chose suivante : nombreux sont ceux qui m'entendent et qui savent bien maintenant qu'ils ne sont pas chrétiens parce qu'ils n'aiment pas donner. Donner amplement et libéralement, c'est-à-dire généreusement, sans réticence, exige que nous ayons un nouveau cœur. Et je crois qu'il a raison. Le chrétien, la chrétienne qui voit le sacrifice de Jésus-Christ et la grâce qu'il ou elle a reçue, a envie d'apporter son offrande en guise de reconnaissance. En illustrant par ce geste qu'il consacre toute sa vie à Dieu, qu'il vit désormais pour lui. C'est Jésus-Christ notre motivation première lorsque nous donnons. Revenez et apportez. Ce sont les deux impératifs de cet après-midi. Et si nous nous sommes éloignés de Dieu ces derniers temps, si nous avons délaissé même nos offrandes, revenons à Dieu et exprimons notre fidélité par nos offrandes. Oui, apportons fidèlement toutes nos offrandes pour que l'Église, dans son ensemble, pas seulement celle de Saint-Maur, mais dans le monde, pour que l'Église continue sa mission dans ce monde, pour que nos locaux, ici, accueillent toujours plus d'adorateurs, pour que le culte de Dieu ne cesse pas. Et comme nous l'avons entendu tout à l'heure, nous pouvons aussi bénir nos frères et sœurs libanais en les soutenant financièrement, afin qu'ils retrouvent un lieu pour se rassembler et pour adorer Dieu. Alors je reviens à ma question de départ. Avec 15 000 euros de revenus, allez-vous donner plus que 10%? Nous avons vu l'importance aux yeux de Dieu des dîmes et des offrandes. Et nous retiendrons encore une fois le message suivant. Pour le peuple de Dieu, donner de nos biens exprime notre fidélité à Dieu. Donner de nos biens exprime notre fidélité à Dieu. Donner rime avec fidélité, ou presque au niveau des sonorités. Donner rime avec fidélité. Et l'inverse, le fait de ne pas donner, dit quelque chose de notre désintérêt vis-à-vis de Dieu. Et cette semaine, lorsque nous avons discuté de ce texte avec Pasteur Nguyen, il a dit avec justesse qu'une des manières concrètes de mettre Dieu à la première place dans notre vie, c'est à travers l'offrande. C'est une affaire entre vous et Dieu. Et les défis ne sont pas les mêmes pour tout le monde dans l'Église. Certains ne perçoivent pas de revenus et donnent ce qu'ils peuvent. D'autres perçoivent un revenu modeste, moyen. Et donc, donner 10% serait déjà un sacrifice. Et le défi, en ce qui les concerne, c'est de faire confiance à Dieu. Et d'autres encore gagnent bien leur vie et donnent régulièrement. Et leur défi à eux est de donner davantage. 15, 20, 30% peut-être de leurs revenus. Et je crois que dans une église, nous ne devons pas taire ce genre de sujet et le dire ouvertement, mais avec comme appui la parole de Dieu. Et pour tout cela, pour tous ces cas que j'ai cités, nous avons besoin que Dieu nous dirige. Nous avons besoin que Dieu nous convainc, que Dieu travaille notre cœur qui est peut-être attiré par l'argent. Ne craignons pas de donner. Ne craignons pas de manquer. Notre Dieu qui ne change pas continuera de prendre soin de son peuple béni en Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à prendre un temps de silence pour avoir l'occasion de prier Dieu, d'exposer votre situation devant le Seigneur et de prendre une résolution qui est seulement la vôtre dans votre cœur, dans le secret de votre cœur et que seul Dieu sait. Notre Père qui es aux cieux, nous lisons dans ta parole, Éternel, je te demande deux choses, ne me les refuse pas avant que je meure. Garde-moi de la fausseté et du mensonge, ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi seulement la nourriture nécessaire, car dans l'abondance, je pourrais te renier et dire qui est l'Éternel. Ou bien, pressé par la misère, je pourrais me mettre à voler et déshonorer ainsi mon Dieu. Seigneur, nous voulons nous approprier aussi cette parole, que tu nous accordes d'être sages dans la gestion des biens que tu nous as confiés. Et nous te bénissons, Seigneur, encore pour ce texte de Malachie, pour ce rappel à l'ordre du peuple d'Israël, qui est aussi un rappel à l'ordre pour nous. Nous avons déjà tout reçu en Jésus-Christ. Et nous ne pouvons même pas imaginer des bénédictions dont nous bénéficions. Accorde-nous, Seigneur, d'avoir un amour si grand pour toi que nous ne nous donnons aucune limite dans ce que nous pouvons te donner. Parce que tu es digne de toutes nos offrandes, de toutes les dîmes que nous pourrions apporter, quel que soit le nom qu'on peut donner. Tu es digne de tout cela. Tu es digne que nous puissions t'offrir notre vie entière. Parce que tu as envoyé ton Fils unique, Jésus-Christ, qui n'a pas hésité à se donner à 100% pour que ton peuple, qui voilà racheté, t'appartienne à 100%. Merci encore, Seigneur, parce que tu nous permets encore, à travers le geste de l'offrande, de pouvoir exprimer quelque chose de notre fidélité. Et nous avons besoin de ton secours pour cela. Nous sommes incapables de t'être fidèles de manière durable. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Veuille nous guider dans nos gestes, veuille nous guider dans nos dons, et que chacun puisse avoir cette conscience de pouvoir donner avec conviction et avec joie. Et nous prions ainsi au nom de Jésus. Amen.